Jean-Baptiste représente celui qui termine la grande attente de l'Ancien Testament, cette grande attente à l'égard du Messie, de celui qui vient pour sauver son peuple. Et, de fait, celui qui sera, comme Jésus lui-même le dit, le plus grand des prophètes, parce que non seulement il annonce, mais il va indiquer que celui qui est l'agneau de Dieu, celui que le peuple d'Israël attend, est présent dans son peuple. Il est présent d'une manière cachée, mais il est présent réellement. Et il découvre à ce moment-là que toute sa mission, c'est d'annoncer celui que les autres ne voient pas et que lui intérieurement a découvert. Et il proclamera « Voici l'agneau de Dieu ». C'est donc un homme qui a une mission très particulière et extrêmement importante, puisqu'on peut dire dans notre foi chrétienne que le plus grand passage que l'humanité ait connu, c'est bien ce passage de la grande attente du peuple d'Israël avec la présence de Jésus, celui qui vient pour sauver son peuple et qui vient pour sauver le monde entier. Jean-Baptiste, c'est donc l'homme qui va terminer cette grande attente et commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Ce ne sera pas lui qui le commencera, mais il l'annoncera. Il l'indiquera. C'est l'homme du plus grand changement qui ait existé dans l'humanité. Et à ce point de vue-là, il nous intéresse d'une façon très particulière, puisque l'humanité d'aujourd'hui, d'une façon toute différente, c'est évident, vit sûrement un très grand changement. Ce siècle dans lequel nous sommes est sûrement le siècle qui a connu les plus grandes mutations, les plus grands changements. Et l'Église elle-même a connu durant ce siècle des très grands changements. Vatican II est sûrement le concile qui achève toute une grande période, on l'a dit, la période qui était après le Concile de Trente, et qui ouvre une nouvelle période. Cette période qui est indiquée aujourd'hui par un renouveau, et que le Saint-Père aime d'indiquer comme un renouveau, un très grand renouveau. Un renouveau qui exige sûrement une reprise très fondamentale de tout. Un retour à la source pour que tout soit de fait tel que Dieu le désire pour son Église d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est si important pour nous de regarder quelqu'un comme Jean-Baptiste, non seulement parce que tous nous l'aimons, Jean-Baptiste est une des physionomies à la fois très attrayante et aussi, quelquefois, qui nous fait un peu peur. Je ne sais pas si on aurait osé être disciple de Jean-Baptiste, parce que les disciples de Jean-Baptiste devaient être formés d'une manière extrêmement rigoureuse. Il suffit d'entendre le langage de Jean-Baptiste aux pharisiens. race de vipères. Il n'hésite pas de le dire. Il n'hésite pas de démasquer les erreurs de son temps. Il les dit avec vigueur. Et en même temps, c'est un homme d'une extraordinaire douceur. La douceur de Jean-Baptiste, on la découvre lorsque justement il est en présence de Jésus et qu'il découvre le mystère de l'agneau. Et le mystère de l'agneau, pour le découvrir comme Jean-Baptiste l'a découvert, montre combien, au plus intime de son âme, il y avait comme une parenté mystérieuse, non seulement une parenté selon la chair et le sang, mais une parenté spirituelle avec Jésus. C'est sûrement un de ceux qui ont été le plus attirés par Jésus. Mais il devait rester à son poste, annoncer que le Messie est là. Jean-Baptiste a cette force d'attraction pour nous à cause de sa force et de sa douceur. C'est toujours extrêmement beau de voir dans un homme l'action de l'Esprit Saint qui est, comme dit l'Écriture, à la fois une action extraordinairement forte et une action pleine de douceur. J'allais dire que c'est la marque de l'Esprit Saint, cela. C'est la marque de l'authenticité d'un homme mu par l'Esprit Saint, lorsqu'on peut découvrir en lui cette force, cette indépendance par rapport à tout le contexte dans lequel il se trouve, et en même temps une extraordinaire douceur. Il ne frappe que là où il doit frapper, et autrement, il est tout accueil et tout amour. Je voudrais montrer un peu ces deux aspects, parce que je crois que si Jean-Baptiste est si attrayant par lui-même, il est aussi, comme je le disais, l'homme de la mutation, du changement, est envoyé pour achever et ouvrir. Alors, n'est-ce pas ce que nous devons, nous, vivre aujourd'hui? Les plus jeunes sont entièrement pris par ce renouveau. Ceux qui sont plus âgés doivent reconnaître la grandeur de ce renouveau, être là pour l'indiquer, pour le montrer du doigt, et non pas du tout s'opposer, être à la suite de Jean-Baptiste. Ceux qui comprennent combien l'Esprit Saint est à l'œuvre aujourd'hui et combien, sans doute, il prépare l'Église au retour de Jésus. Et si vraiment Vatican II nous ouvre d'une manière très particulière vers ce retour de Jésus, être ceux qui indiquent ce retour, être ceux qui sont directement dedans, c'est sûrement un moment capital pour l'Église, analogue à celui du point de départ. L'alpha et l'oméga se ressemblent. Jean-Baptiste, c'est l'homme donc qui achève l'Ancien Testament. Et c'est pas commode d'être celui qui achève cette grande attente de 2000 ans, d'être celui qui la porte en lui. Pour l'achever, il faut qu'il la porte. Et être en même temps celui qui annonce quelque chose de tout à fait différent. Pour bien comprendre ces deux aspects de saint Jean, je me réfère à deux passages de l'évangile de saint Jean, où on voit Jean au désert avec ses disciples. On ne parle pas directement de ses disciples, mais les disciples sont là quand même présents derrière lui. Mais on voit des lévites et des prêtres envoyés par les autorités de Jérusalem, interroger celui qui est au désert et qui, je ne dis pas qu'il est un intrigant, mais il peut apparaître comme un intrigant, tout le monde va vers lui. Il doit y avoir une certaine jalousie de la part des autorités de Jérusalem qui voient que tout le monde va vers cet homme qui n'a rien pour lui. Il est vêtu comme un pauvre, il est un ignorant, il n'a pas tous les grades des docteurs de la loi, il est pauvre, c'est un très grand pauvre, Jean-Baptiste. Et ce pauvre, il attire à lui, parce que sans doute, étant pauvre, il n'a rien à perdre. Alors il peut être docile à l'action de l'Esprit Saint et être un instrument merveilleux de l'Esprit Saint. J'aime beaucoup ce passage dans l'évangile de saint Jean, au chapitre 1er, verset 10. Et tel est le témoignage de Jean lorsque de Jérusalem les Juifs lui envoyèrent des prêtres et des Lévites pour l'interroger. « Qui es-tu ? » Je crois que c'est la dernière question qu'on pouvait poser à Jean-Baptiste. Il ne s'était jamais demandé ce qu'il était pour lui et pour les autres. Parce qu'il était essentiellement mu par l'Esprit Saint. Et quand on est mu par l'Esprit Saint, on ne se regarde plus. On s'ignore. On est tout entier pris parce que l'Esprit Saint réclame de nous « Qui es-tu ?» Il le reconnut, il ne nia pas, il le reconnut « Moi, je ne suis pas le Christ. » C'est tellement significatif. Il sait très bien que ses lévites et ses prêtres attendent celui qui doit venir, le Christ. Et donc, si on vient l'interroger, qui es-tu ? C'est qu'on pense qu'il dira qu'il est le Christ. Aussi tout de suite, il montre qu'ils se sont trompés. Je ne suis pas le Christ. Ils l'interrogèrent, quoi donc ? Es-tu Élie ? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Il répondit, non. Il se définit par trois négations. Il n'est ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Remarquez bien, Jésus, parlant de Jean-Baptiste et parlant d'Élie, reconnaît que Jean-Baptiste est bien Élie, qui est revenu pour son peuple. Jean-Baptiste, humble comme il est, pauvre comme il est, non, il n'est pas Élie et il n'est pas le prophète. Alors, on comprend bien l'attitude de ceux qui sont envoyés de Jérusalem. Qui es-tu ? Que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Voilà leur grande inquiétude. Ils sont envoyés auprès de Jean-Baptiste pour savoir qui il est. Et comme il se définit par trois négations, on ne peut pas donner ça comme réponse. Et leur unique désir, c'est de remplir bien la fonction qu'on leur a demandée. Ils ne cherchent pas tellement la vérité. Qui es-tu que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu toi-même? Il a dû avoir un grand silence, là. Jean-Baptiste a dû invoquer l'Esprit Saint. Que dis-tu toi-même? Je suis, moi, la voix de celui qui clame dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, selon ce qu'a dit Isaïe le prophète. C'est merveilleux de voir cette humilité, cette pauvreté. Il se définit lui-même en se servant des paroles du prophète. Il n'y a rien de lui, tout vient du prophète. Moi, je suis la voix de celui qui crie, qui clame dans le désert. Il est la voix de celui qui crie. Je crois que c'est cela qui nous fait le mieux comprendre ce qu'il y a de profond dans l'âme de Jean-Baptiste. Et je dirais le regard de Dieu sur lui. Il est la voix. Dans l'évangile de Saint Jean, si on regarde le prologue, on voit très bien que Jean distingue le Verbe, la parole et la voix. Normalement, quand on parle, on a pensé avant. On se sert d'une parole pour transmettre ce qu'on a pensé. Et la parole a besoin de la voix. Quand on a une voix cassée, on s'aperçoit bien ce que c'est que la voix. La voix exprime toute l'attitude affective. On n'a pas la même voix quand on supplie. On n'a pas la même voix quand on est intimidé. On n'a pas la même voix quand on parle à un ami. La voix permet le contact. Mais la voix présuppose la parole. Ou plus exactement, présuppose le contenu de la parole, le Verbe. Ce qui est extraordinaire dans Jean-Baptiste, c'est qu'il se définit uniquement la voix de celui qui clame dans le désert. De celui qui clame dans le désert. Celui qui n'est plus qu'un cri. Il est la voix de l'Esprit Saint qui a creusé en lui un tel désir, une telle soif, le désir de celui qui doit venir, la voix de celui qui clame, de celui qui crie dans le désert. Il y a en lui un très grand désir, c'est-à-dire un très grand amour à l'égard de celui qui doit venir, et en même temps, celui qui sait que sans le Messie, le peuple d'Israël ne sait plus très bien où il va. Il est dans une période particulièrement difficile. Et Jean-Baptiste a pris dans son cœur ce désir de tous les prophètes. Et il clame ce désir. Il le dit à haute voix pour réveiller le peuple d'Israël et le remettre dans la ligne droite. C'est un homme de désir et c'est un homme par le fait même qui est pauvre, puisqu'il n'y a pas de désir sans qu'il y ait une grande pauvreté. Et plus la pauvreté est grande, plus le désir est fort. Et Jean-Baptiste représente cette pauvreté parce qu'il sait qu'il est uniquement un envoyé de l'Esprit de Dieu. Il est pauvre parce qu'il n'a rien, lui. Il a vécu au désert. Il a prié, adoré. Il a loué Dieu. il a dit à Dieu sa soif. Que Dieu, enfin, ait pitié du peuple d'Israël et lui envoie son sauveur. Il est celui qui a pris dans son cœur toute la pauvreté du peuple d'Israël, pauvreté religieuse du peuple d'Israël de cette époque. Et cette pauvreté, il s'en sert pour prier avec une instance plus grande. Et il crie dans le désert. Oui, c'est vrai, il est dans le désert, mais il est surtout dans le désert parce que personne ne l'écoute. Quand on porte au plus intime de son cœur une très grande soif, et qu'on est entouré de gens qui ne comprennent pas très bien ce qu'on veut dire, parce qu'ils n'ont pas la même pauvreté, parce qu'ils n'ont pas le même désir, alors on a toujours l'impression d'être dans un désert. Et je crois que Jean-Baptiste, qui est l'homme du désert, c'est l'homme aussi qui crée ce désert. Parce que quand il crie, et que peu d'hommes l'écoutent, parmi tous ceux qui viennent auprès de lui, oui, on l'écoute, mais on ne vit pas avec la même intensité que lui. Et si on ne vit pas ce désir avec la même intensité que lui, Jean-Baptiste se considère vraiment comme dans un désert. Et ce pauvre qui crie sous l'action de l'Esprit Saint réclame redresser le chemin du Seigneur, aplanisser les montagnes et les collines. On ne peut attendre le Messie que dans une extraordinaire pauvreté, sachant que sans lui, on ne peut rien. C'est beau, cette manière dont Jean-Baptiste se définit. Et on voit très bien que ses lévites et ses prêtres ne comprennent rien à ce qu'il dit. Ils ne s'attendaient pas à cela. Et les envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu » Jean-Baptiste vient dire quelque chose de si sublime, et eux ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris que justement Jean-Baptiste disait, pourquoi il baptisait ? Parce qu'il était le pauvre de l'Esprit de Dieu, qui voulait préparer la venue du Messie. Et son baptême, c'était un baptême de préparation. Mais ses pharisiens, ses lévites et ses prêtres n'ont pas compris. Alors ils l'interrogent tout simplement sur ce qu'il fait. L'âme de Jean-Baptiste ne les intéresse pas. La profondeur de l'âme de Jean-Baptiste ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'il fait. Et c'est justement ce qui intéresse le moins Jean-Baptiste. Il y a un hiatus entre les deux. Il y a comme deux extrêmes, j'allais dire, du peuple d'Israël qui nous est présenté ici. Ces fonctionnaires religieux qui n'ont qu'un seul désir, c'est l'accomplissement parfait d'une mission qu'on leur a donnée. Il faut que ce soit efficace. Et puis le pauvre, qui lui est dévoré par son désir que Dieu vienne à l'encontre, vienne à la rencontre du peuple d'Israël. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Il ne pense qu'à la dignité des hommes et ne voit pas la profondeur de l'appel de Jean-Baptiste. Alors on voit très bien, Jean-Baptiste est blessé de voir que ces lévites et ces prêtres, ces pharisiens ne comprennent pas. Alors il n'est plus celui qui répond simplement aux interrogations, il est celui qui subitement reprend sa force. Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Celui qui vient après moi, et je ne suis pas digne, moi, de délier la croix de sa chaussure. Ce pauvre fait cette correction fraternelle à ses lévites et ses prêtres. Il est au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est lui qui est intéressant. Et c'est pas moi. On voit très bien comment le cœur de Jean-Baptiste, subitement, sous l'action de l'Esprit-Saint, donne cette terrible leçon à ces gens qui croient tout savoir au plan religieux. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est lui. Vous voyez combien cet homme pauvre a une audace prodigieuse vis-à-vis des autorités religieuses de Jérusalem. Il n'hésite pas de faire cette correction fraternelle parce qu'il est pauvre et qu'il est docile à l'Esprit Saint. Alors il agit avec sa force. Comme pour ce pauvre, l'inefficacité de son témoignage a dû être lourde. Ses lévites et ses prêtres s'en sont retournés vers Jérusalem, laissant Jean-Baptiste au désert, à sa prière, à sa soif. Je crois que Jean-Baptiste n'a rien changé dans leur vie. Ce qui est le plus dur pour un témoin, pour un apôtre, c'était des lévites et des prêtres. Ils étaient envoyés par les autorités de Jérusalem. Si les autorités de Jérusalem avaient écouté Jean-Baptiste, si les autorités de Jérusalem étaient venues demander le baptême de pénitence, je crois que Jean-Baptiste a compris à ce moment-là la gravité de son message, l'importance de son message. C'est comme si la Providence, Dieu, avait remis à Jean-Baptiste cette responsabilité d'être celui qui devait vraiment redresser le chemin du Seigneur, aplanir les montagnes et les collines, faire que tout l'orgueil religieux disparaisse, pour qu'on soit en face de mendiants de la vérité, de pauvres. Jean-Baptiste a dû connaître à ce moment-là, au plus intime de son cœur, quelque chose de terrible. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Baptiste, connaissant cette nouvelle pauvreté, la présente à Dieu comme un pauvre incapable de réaliser la mission qui lui est confiée. Et ce qui est admirable, c'est que Jésus ne va pas à la rencontre des lévites et des prêtres. Ils auraient été incapables de le reconnaître. Mais Jésus va à la rencontre du pauvre. Il va à la rencontre de Jean-Baptiste. Le lendemain, il aperçut Jésus qui venait vers lui. C'est Jésus qui vient vers lui. Et subitement, Jean-Baptiste est éclairé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà la grandeur de Jean-Baptiste. Ce pauvre est capable de reconnaître Jésus. Et de reconnaître dans Jésus ce qu'il y a de plus intime et de plus profond. Le mystère de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui pour lequel moi j'ai dit, après moi vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais pour qu'il fût manifesté à Israël, voilà pourquoi je suis venu, moi, baptisant dans l'eau. Toute la mission de Jean-Baptiste s'éclaire subitement devant la présence de Jésus, devant le mystère de l'agneau. Et ce pauvre qui a fait cette correction fraternelle la veille à ses lévites et à ses prêtres, ce pauvre reconnaît que lui-même, il ne le connaissait pas. Ça, c'est d'une telle vérité. Et là, il pardonne à ses lévites et à ses prêtres de ne pas connaître celui qui était au milieu d'eux. C'est le pauvre qui pardonne. Jésus ne lui dit rien, mais il le regarde. Ce regard de Jésus sur Jean-Baptiste, cette présence de Jésus sur Jean-Baptiste, le transforme. Et immédiatement après, Jean-Baptiste, sous cette emprise de cette présence, témoigne. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe venant du ciel. Il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. C'est merveilleux de voir à côté de Jésus l'agneau, la colombe. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe, venant du ciel et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'élu de Dieu. Cette grande théophanie pour cet homme du désert, pour ce pauvre, le mystère de l'agneau sous la conduite de la colombe. Sous la conduite de l'Esprit Saint qui le conduit avec une telle douceur et une telle force et la présence du Père qui vient confirmer au plus intime de Jean-Baptiste sa véritable mission. Il est le précurseur, celui qui annonce la venue du Messie. Le lendemain, Jean-Baptiste, qui a sans doute parlé à ses disciples de cette apparition, de cette vision, de cette présence de Jésus, ça me semble impossible que Jean-Baptiste n'ait pas dit cela à ses disciples. Ce qui est sûr, c'est que le lendemain, les disciples sont là et de nouveau, Jésus passe. On souligne le lendemain de nouveau, Jean se tenait là, le stabat de Jean. Tout l'évangile de saint Jean est entouré de ces deux stabats, le stabat de l'homme du désert et le stabat de la mère des douleurs. Jean se tenait là avec deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui passait, de nouveau le regard. Il le regarde, il est attiré vers lui. Il n'a qu'un seul désir, c'est de le suivre. Mais il sait que Dieu, que l'Esprit de Dieu, veut qu'il reste là, fixé au désert, pour montrer celui qui est au milieu du peuple et que le peuple ne connaît pas. Et Jean-Baptiste va témoigner du mystère de Jésus, du mystère de l'agneau pour ses deux disciples. Voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Voyez là le passage. Ceux qui sont pour le renouveau et ceux qui l'annoncent. Jean-Baptiste reste celui qui doit fermer la maison. C'est rude de fermer une maison, surtout une maison si grande, si étonnante, si merveilleuse, tellement conduite par l'Esprit de Dieu. Il doit être celui qui ferme la maison. Et il doit offrir ses deux disciples, c'est sûrement ceux qu'il aime le plus, il doit les offrir à Jésus lui-même. Jésus réclame du pauvre le trésor du pauvre, ses deux disciples bien-aimés. Jésus sait qu'il peut les demander aux pauvres. Jésus sait que ses disciples ont été magnifiquement formés par ce pauvre. Et Jésus montre là toute sa confiance à Jean-Baptiste. Ces deux pauvres, comme ils se rencontrent avec amour. Les deux disciples, Jean, qu'on ne nomme pas, et André, ces deux disciples quittent leur premier maître. Ce premier maître était là uniquement pour indiquer la route. Il était uniquement la voix qui crie dans le désert. Et cette voix qui crie dans le désert prend un accent nouveau quand elle dit « Voici l'agneau de Dieu » et que Jean le montre. Et ces deux disciples quittent leur premier maître pour suivre Jésus, pour demeurer avec lui. C'est tellement grand ce passage. Et ça fait tellement comprendre la pauvreté de Jean-Baptiste et son amour si grand pour Jésus. Il donne tout à Jésus. Et en donnant, ses deux disciples préférés, Jean et André, il fait plus que de se donner. Il y a un autre passage que je voudrais signaler parce qu'il nous fait entrer dans l'âme de Jean-Baptiste et c'est ça qui est important. C'est lorsque Jean-Baptiste se trouve en face d'une petite querelle de ses propres disciples qui lui disent ouvertement qu'ils ne comprennent absolument pas sa conduite. Parce que, précisément, les disciples de Jésus deviennent beaucoup plus nombreux que ceux de Jean-Baptiste. Et pour les disciples de Jean-Baptiste, ce n'est pas très agréable de voir que les disciples de Jésus l'emporte sur ceux de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste est quand même le premier. C'est Jean-Baptiste qui a indiqué l'agneau de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui était au point de départ de la mission de Jésus. Et donc, il devrait toujours rester l'aîné. Jésus est le cadet de Benjamin par rapport à Jean-Baptiste. Il y a 6 mois de différence. Autrement dit, on est en présence d'une montée de jalousie terrible. Des disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas la pauvreté de leur maître et qui ne comprennent pas cette pauvreté si radicale de leur maître. Alors, ils s'inquiètent, ils critiquent leur maître, ne le comprenant pas. Et Jean-Baptiste, devant cette crise de jalousie, si facile entre hommes religieux, entre disciples d'hommes religieux, on voit très bien, les jeunes communautés d'aujourd'hui sont tellement pauvres qu'il n'y a pas de jalousie entre elles, mais quand même, de temps en temps. On regarde les autres communautés en disant « Tiens, elles sont plus nombreuses que nous. Comment ça se fait ?» On voit très bien ces jalousies. Ça monte toujours un peu. Puis c'est des jalousies de jeunesse ou de vieillesse. Hein, parce qu'il y a deux types de jalousies. Celle qui descend et celle qui monte. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Baptiste se trouve en face de cette jalousie qui commence à monter. Et alors, il va nous révéler le grand secret, j'allais dire, le nouveau secret de son cœur. Il est joyeux de rester au désert et de ne pas faire comme ses deux disciples, Jean et André. Il nous révèle la cause de sa joie. Et la cause de sa joie, c'est qu'il considère que Jésus est et si Jésus est tout pour lui, alors il n'a aucune raison d'être jaloux et d'être jaloux du grand nombre des disciples et que lui reste un petit nombre. Il dit avec force que tout ce qu'il a de bon, il l'a reçu de Dieu. Et puisque tout ce qu'il a de bon, il a reçu de Dieu, il n'y a aucune raison d'être jaloux. C'est l'action de grâce. Juste l'inverse de la jalousie. Et alors, il se reconnaît comme l'ami de l'époux. Vous voyez comment le passage de Jésus auprès de Jean-Baptiste a transformé cette âme de pauvre. Il se dit l'ami de l'époux. Il n'est plus la voix qui crie dans le désert. Il est l'ami de l'époux. Il a trouvé le lien d'amour qui lui permet de se reposer. Il a choisi comme ami celui qui est l'agneau, celui qui est l'époux. Ces deux grandes visions de Jean-Baptiste sur Jésus, comme elles sont étonnantes. J'allais dire, si les deux dernières grandes prophéties de la première alliance sur Jésus présent, il est l'agneau, celui qui porte l'iniquité du monde. L'agneau qu'Isaïe avait vu comme serviteur de Yahvé, l'agneau qu'on mène à la boucherie, l'agneau qui est l'agneau pascal, l'agneau et l'agneau immolés sur la montagne. Et il est l'époux. Jésus est l'époux. Celui qui vient réaliser cette nouvelle alliance d'Israël, de l'Église, avec Dieu. Il est l'époux. L'agneau s'offre, l'époux se donne. L'agneau, c'est la passivité dans l'amour. L'époux, c'est celui qui agit et qui choisit. Et Jean-Baptiste se considère comme l'ami, l'époux. Toute la première alliance en lui devient l'ami de l'époux. Ce n'est pas seulement la pauvreté de l'attente, c'est quelque chose de plus. C'est cette relation d'amitié avec celui qui est l'époux. Il est l'ami de l'époux. Et il se réjouit à la voix de l'époux qui parle à l'épouse. C'est sa plus grande joie, c'est de savoir que l'époux est tout entier relatif à l'épouse, qu'il est pour l'épouse, qu'il la découvre, qu'il l'aime, qu'il lui parle. C'est la grande joie de Jean-Baptiste. Il entend la parole de l'époux qui s'adresse à l'épouse. Et cette joie, elle prend tout en lui. Parce que justement, il est pauvre, il peut donc recevoir en plénitude un nouvel amour. C'est lorsque on est propriétaire de l'amour qu'on est riche, qu'on devient incapable d'un dépassement et de recevoir un nouvel amour, plus grand que le premier, et qui renouvelle tout et qui transforme tout. Voyez, comment la rudesse de Jean-Baptiste devient cette très grande douceur. L'ami de l'époux. Et je précise, hein, de l'époux en tant qu'époux. Et donc, il découvre toute la douceur du cœur de Jésus. L'époux il aime l'épouse en lui donnant tout, tout ce qu'il est. Je terminerai en regardant la manière dont ce grand témoin, ce grand prophète, termine sa vie. Tellement il aime la vérité. Et tellement, lorsqu'il s'agit de la vérité, il va jusqu'au bout. Peu importe si c'est dangereux pour lui. Peu importe si on ne le comprend pas. Peu importe s'il va attirer autour de lui des haines, des oppositions farouches. Il veut être le témoin de la vérité. Non seulement témoin de la vérité pour annoncer le Messie, pour proclamer celui qui doit venir, mais témoin de la vérité dans le cœur des hommes, pour qu'eux-mêmes soient vrais en face de Dieu. Et ne biaise pas avec Dieu. On sait très bien toutes les circonstances dans lesquelles Jean-Baptiste n'a pas hésité de dire à celui qui avait le pouvoir, qui n'avait pas le droit. Par rapport au mariage, d'enfreindre les lois, de rejeter l'épouse légitime et d'épouser quelqu'un d'autre. Et alors, l'intéressé ne peut pas pardonner à ce prophète d'avoir agi de cette façon. Et nous savons alors comment elle profitera d'une circonstance. Une fête, un anniversaire, où sa fille plaira au roi par son élégance, par sa danse, et reçoit une promesse que tout ce qu'elle demandera, il lui accordera. Alors elle vient demander à sa mère ce qu'il faut demander. La tête de Jean le Baptiste qui est en prison. Et on apportera la tête de Jean-Baptiste qui vient d'être décapité en prison. La mort du pauvre. La mort du pauvre qui aime Jésus comme l'ami de l'époux. La mort du pauvre qui témoigne qu'il doit redresser le chemin et toute erreur affective, tout débordement affectif, et comme une montagne qui empêche de recevoir la vérité. Et Jean-Baptiste est là pour dénoncer, même s'il faut qu'il perde sa vie, même s'il faut être décapité, il ira jusqu'au bout de sa mission de pauvre, nous montrant par là la grandeur de cette pauvreté, fruit de l'Esprit Saint dans son cœur, la grandeur de cette pauvreté qu'il ouvre à Jésus comme une voie royale qui permet à Jésus de prendre possession de son cœur et qui lui donne une force nouvelle.